Excellence, mon Père, merci beaucoup pour vos paroles. Mesdames, Messieurs, je vais parler plutôt de Monsieur Lefebvre, mais je pourrais rajouter des souvenirs de Monsieur Lefebvre, de Gustavo Corson, aussi au sujet de Campos, aussi beaucoup d'anecdotes intéressantes. Mais nous allons parler tout d'abord de Monsieur Lefebvre, de son combat. Des choses déjà connues, mais après nous passerons à des faits qui peut-être intéresseront encore davantage parce qu'ils sont moins connus. Bon, dans le dernier sel de la terre, il y a ce passage de Cardinal Pi qui dit « Voulez-vous savoir de quel côté les hommes appliqués aux sciences sacrées doivent porter de préférence leurs études ?» Ou les hommes des sciences, ou les hommes les guides spirituels, les évêques, où doivent porter leur effort principal, leur étude principale, où le porter. Il répond, regardez de quel côté l'erreur dirige ses attaques, ses négations, ses blasphèmes. Ce qui est attaqué, nié, blasphémé dans chaque siècle, c'est là principalement ce que ce même siècle doit défendre, doit affirmer, doit confesser. Où abonde le délit, il faut que la grâce surabonde. Eh bien, je pense que c'est tout l'œuvre de Monsieur Lefebvre. Il a bien compris notre siècle. Il a bien décelé le mal qui rongeait à l'intérieur de l'Église. Et il a fait une merveilleuse œuvre à la fois pastorale et doctrinale. Un jour j'étais à Icône et dans le réfectoire, on parlait le sujet était la crise actuelle. J'ai voulu apporter une petite contribution, donc j'ai dit tout cela vient de la négation du péché originel. Le fait m'a regardé et a dit non, c'est plus que ça. Sa réponse était très intéressante. Je n'ai pas tous les mots dans ma tête, mais l'idée elle était la suivante. Non, c'est plus grave que cela. C'est plutôt l'insoumission la plus totale vis-à-vis de Dieu. Au ciel, les saints sont soumis à Dieu. Or, les libéraux ne veulent pas de soumission. Et c'est intéressant cette idée profonde. Le libéralisme, c'est l'insoumission la plus... Bon, bien sûr, il a des degrés, mais il part d'un... Elle fait un désir d'être libérée de tout, même de Dieu. Le libéral, comme disait le cardinal Biot, je pense que c'est lui, un fanatique de liberté. Donc l'idée de soumission lui est intolérable. Or la soumission à Dieu est le tout de la vie chrétienne. Et la crise actuelle se joue presque tout entière sur cette question de soumission et d'insoumission. Écoutons M. Lefebvre nous décrire la paradoxale situation où il se trouvait accusé par les libéraux d'être exactement le contraire de ce qu'il était. On dit que nous sommes dans la désobéissance et Dieu sait s'il est quelque chose qui pourtant nous est cher. C'est précisément de nous abandonner à la volonté de bon Dieu. C'est d'être entièrement soumis à ses désirs. Être dans la désobéissance, ce serait nous opposer non seulement aux autorités d'ici-bas, mais même à l'autorité de Dieu. Or, cela est inconcevable. Or, M. Lefebvre était accusé d'être insoumis par cela même qui était et qui reste insoumis à la tradition de l'Église, insoumis à son droit canon, puisqu'ils ont fait un autre, insoumis à sa liturgie, puisqu'ils ont fait une autre, insoumis à toutes les condamnations des erreurs modernes, puisqu'ils ont fait un concile pour les approuver, une grande partie, ils ont fait un antisyllabus avec dignitatis humanae, etc. Or, ce sont ces insoumis qui ont taxé Monsieur Lefebvre d'insoumission. Monsieur Lefebvre continue, c'est dans son sermon quand il a fait 70 ans, donc à Icône, le 29 novembre 75. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, nous prenons la ferme résolution de n'être jamais opposés à la sainte volonté de Dieu. Mais quand les forces du mal qui sont dans l'Église, d'une manière absolument évidente, par l'autodestruction dont souffre l'Église, quand ces forces du mal arrivent à convaincre les autorités les plus hautes de l'Église pour nous demander de les suivre, pour nous demander de nous conformer à leurs propres principes, à leurs propres idées qui sont destructrices de l'Église, alors nous préférons obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Et nous refusons de nous soumettre à ces injonctions qui veulent nous conduire sur le chemin de la perte de la foi. Bon, c'est le coup de maître de Satan dont parlait Monsieur Lefebvre. Les libéraux, ennemis de la tradition, se servent de l'arme de l'obéissance pour mettre toute l'Église elle-même dans la désobéissance à notre Seigneur, à son Église et à sa tradition. Et aujourd'hui, hélas, c'est ce qu'on voit maintenant là où on ne s'attendait pas. C'est là, dans la tradition, la même arme utilisée dans la tradition, dans la fraternité qui commence. Je pense qu'on va finir pour réclamer le nom tradition pour nous. Il disait, tradition c'est nous, c'est fini, parce que la fraternité commence à travailler de plus en plus. Bon, il y a beaucoup de nuances à faire, mais elle commence à faire la même chose que l'Église officielle a fait avec Monsieur Lefebvre. Ça sert de l'obéissance pour pousser les gens dans la désobéissance à la tradition, à leur fondateur. Cependant, Saint Augustin dit que la vertu ne peut jamais être utilisée pour le mal. C'est dans la Somme théologique de Saint Thomas qui cite il commente la définition de Saint Augustin qu'il donne de la vertu. Il dit, entre les choses qu'il ajoute, elle ne peut pas être utilisée pour le mal. Donc, aussi bien Monsieur Lefebvre que Monsieur de Castelmayre étaient connus par leur fidélité, par leur esprit d'obéissance. Donc, Castelmayre était un élève, tout le monde le reconnaissait, était un élève parfait de Pie XII. Monsieur Lefebvre était, tous les deux ont étudié à la grégorienne. Ils étaient des exemples d'obéissance, non seulement intellectuellement, mais dans toute leur activité. Et c'est parce qu'ils étaient des vrais obéissants, qu'ils avaient cette vertu, que quand on a voulu leur faire tourner cette vertu contre le bien, ils ont dit non, ça ne marche pas. On ne peut pas mettre la vertu au service du vice, au service du mal. Donc je pense, quand j'étais à Bédouin, il y avait un moine qui disait non, les Français ont réagi parce que ils ont, c'est leur caractère, ils sont des Gaulois, ce sont des gens qui n'obéissent jamais. Voilà. Donc c'est facile pour eux de résister. Ils disent non, c'est pas possible ça. Non, c'est au contraire. Ils sont les plus obéissants. Bon, le caractère c'est autre chose, mais ceux qui ont la vertu d'obéissance, qui avaient une foi plus grande, une vie spirituelle plus forte, sont eux qui ont résisté. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de vertu. Ce qu'ils ont fait a été de constater qu'il ne leur était pas permis de prendre part à la destruction de l'Église. Monsieur Castelmayre et Monsieur Lefebvre ont dit non. On ne peut pas prendre part à cette œuvre de démolition de l'Église. Je pense qu'on peut dire que ce sont les deux évêques les plus obéissants qui ont trouvé le plus de force, le plus de vertu pour s'opposer de la manière qui convenait aux ordres, aux faux ordres des libéraux qui détruisaient l'Église. Écoutons encore M. Lefebvre. C'est là le problème qui apparaît aujourd'hui pour notre œuvre et pour le monde qui ne comprend pas la situation de l'Église. nous faire apparaître comme étant dans la désobéissance. Voilà le même drame qui se passe aujourd'hui. De très bonnes familles, taxées de désobéissantes, forcées plus ou moins d'accepter la nouvelle orientation de la fraternité, sous menace de représailles plus ou moins fortes, et des exemples commencent à être connus ici et là, et tendent à se multiplier sous de différentes formes. C'est tout un nouveau chapitre de la crise actuelle qui commence pour les bonnes familles catholiques et françaises, et pas seulement françaises, parce que cela se passe aussi dans d'autres pays, qui les familles se trouvent dans la même situation, mal vues dans les priorés, mal vues dans l'école, mal vues parce que on les taxe de désobéissants. Cette hérésie de libéralisme et de ses procédés, c'est cela que Mgr Lefebvre a dévoilé avec une clarté et une force extraordinaire. Mgr Lefebvre a été le cardinal Pie du XXe siècle, le disciple par excellence de Saint Pie X, contre lequel tous les efforts de l'ennemi ont échoué. Plusieurs fois, ils ont failli écraser son œuvre, mais n'ont pas réussi. Tant qu'il était vivant, son œuvre prospérait, et c'est ce combat qu'il faut continuer. Il a été docteur et confesseur, et martyr dans le sens large du terme. Il a été un second Athanase, il a été le saint Athanase du XXe siècle. Et pourquoi Mgr Lefebvre s'est ainsi battu? C'est encore lui qui va nous le dire. Pourquoi avons-nous choisi cette voie difficile, cette voie pénible même, de perdre notre réputation vis-à-vis du monde, plutôt que de perdre notre réputation vis-à-vis de Dieu? Car c'est cela seul qui compte. Tout le reste ne compte pas. Nous devons aussi nous abandonner dans les difficultés spirituelles, dans les difficultés qui atteignent ce que nous avons de plus cher, notre union à Dieu, notre union à notre Seigneur dans notre prière, dans notre raison. Je parle ici de la soumission à Dieu, dans la raison, dans l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Que d'entraves, que de difficultés, que d'épreuves tout au long d'une vie. Le bon Dieu se plaît à nous envoyer des difficultés, des épreuves, des sécheresses. Disait ça en 75. Beaucoup d'épreuves l'attendaient encore. Il poursuivait, tout cela nous devons être prêts à offrir à Dieu, nous abandonner à Dieu dans ses difficultés, mais pour être attachés à lui toujours davantage. C'est lui qui nous donne cette croix. C'est lui qui nous fait porter la croix. C'est lui qui nous met sur la croix pour que nous soyons plus unis à lui. Pour nous, pour que nous l'aimions davantage, pour que nous le suivions davantage. Donc union, soumission, acceptation, abandon, ça c'est ce qu'il y a de plus antilibéral au sens le plus fort du terme. Parce que le libéral, il veut prendre sa distance, prendre sa liberté et choisir lui-même sa voie. Voilà un langage donc tout à fait opposé au libéralisme. Le libéral, par contre, ne veut pas être attaché à Dieu, même s'il ne se pose pas de cette manière, c'est à cela que ça finit. Le libéral veut être libéré de tout, encore qu'il y a des différents degrés, bien sûr. Mais l'idée centrale du libéralisme est bien celle de se libérer, d'être prendre ses aises. Le monde actuel et l'Église conciliaire avec lui ne veulent savoir que d'être libérés. Or, Mgr Lefebvre leur barrait la route. Mgr Lefebvre était un obstacle et de taille parce qu'il avait des séminaires. Rome s'inquiéta. Au mieux, les libéraux se sont vivement inquiétés et ont tout fait pour l'écraser. Rome, la Rome occupée par les libéraux, fera donc de telle sorte que Mgr Lefebvre soit condamné et que la fraternité soit supprimée et que les communautés amies soient aussi détruites autant que possible. Mgr Lefebvre ne tiendra pas compte, non pas parce qu'il était désobéissant, Bon, tout le monde le sait. Mais il ne tiendra pas compte parce qu'il avait pu constater très clairement la cause de ses attaques. Que la cause de ses attaques était son attachement à la doctrine catholique, son attachement aux encycliques qui condamnaient les erreurs modernes. Il a vu ça avant M. de Gastemeyer. M. Gastemeyer, au début, en 1976, n'était pas encore... l'événement des cônes n'était pas assez connu au Brésil. Et M. Gastemeyer ne se rendait pas assez compte de ce qui se passait à Icônes. Ce sont des grands amis qui ont été un peu séparés par la distance. Et il y a eu des moments où M. Gastemeyer n'a pas bien compris ce que faisait M. Lefebvre. 76, c'est un exemple. Je vous raconte, mais sans aucun sens péjoratif. Simplement raconter les faits, que je trouve c'est intéressant. Nous venions d'arriver à Icônes, dont Gérard avec les moines, et le monsieur Lefebvre, toujours très serrant, il dit, est-ce que vous avez vu le cardinal Tiandun? Il vient de sortir d'ici. Il vient venu me dire que si demain, je concélèbre avec lui, tout est fini, tout est arrangé. Et après, il a dit, voilà, monsieur Gastemeyer m'a envoyé un petit télégramme, en disant qu'il n'est pas d'accord avec ce que je fais. Alors Ariel dit, je ne sais pas pourquoi il m'envoie ça. Je ne lui ai rien demandé. Mais ça montre que dans les combats, il y a des moments où deux combattants peuvent ne pas savoir exactement ce qui se passe. Pour ça que c'est bien de s'informer, parce que quelquefois on peut ne pas comprendre la nécessité de certains actes. Et M. Gastemeyer était parfaitement d'accord sur le fond, mais à l'époque, il certainement avait perdu un peu de vue M. Lefebvre. L'important aussi d'être uni. Après le concile, il était 250 évêques être contre les erreurs de Vatican II, et à la fin, ils n'étaient que deux. Et donc l'importance de se connaître et s'entraider, Les libéraux voulaient donc à tout prix abattre l'évêque fidèle à Saint-Pédis et à tout le magistère de l'Église. En 76 est l'année de la suspense divinis. Suspense sans aucune valeur et qui fera monter tout de suite la popularité de M. Lefebvre. Puisqu'elle révélera au monde entier qu'un évêque s'opposait à la destruction de l'Église. Le peuple encore fidèle, et je pense même beaucoup de gens de bon sens, des polices, des gens, ont dit, se sont tournés vers lui. L'année 76 a été glorieuse en France, et un peu partout. Les libéraux ont eu peur. M. Lefebvre était monté dans la popularité, on fait un sondage, il posait la question, avec quelle personnalité vous aimeriez déjeuner? Alors, en première place, c'était, j'ai oublié son nom, Polydor, le champion du Tour de France. Et en seconde place, M. Lefebvre, qui commençait à doubler Polydor. Donc, c'était très intéressant. Je ne me souviens pas de l'année où, de la prise de Saint-Nicolas, mais devait être par là aussi.
77.
L'année 77. Oui. Donc c'est une conséquence de ça. Ça a rendu possible beaucoup de choses. C'est nous qui sommes l'Église catholique, disait M. Lefebvre, dans son sermon de 22 août de 76. Ce sont eux qui se séparent de l'Église catholique. Ce n'est pas nous qui faisons schisme. Nous voulons ce règne de notre Seigneur. Nous voulons qu'on le proclame. Nous sommes prêts à suivre, que nos pasteurs disent partout, nous ne voulons qu'un Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous le suivrons. Donc M. Lefebvre n'était pas du tout l'homme qui veut casser la baraque, qui veut désobéir, qui veut être de contre, non. Et si on enseigne ça, on suit. Si le pape enseigne ça, on suit. Vous désobéissez au pape, continuait-il. Eh bien, je désobéis au pape, dans la mesure où le pape s'identifierait avec la révolution qui s'est faite au cours du concile et après le concile, parce que cette révolution est la révolution de 89. Et moi, je ne peux pas obéir à la révolution de 89, la révolution à l'intérieur de l'Église. Ils n'ont pas le droit de brader la foi. La foi ne leur appartient pas. La foi n'appartient pas au pape. Elle appartient à l'Église. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pape et les évêques sont là pour transmettre la foi. Donc notre devoir est simplement voilà, donner continuité à cela, à ces programmes. Dans la mesure où ils transmettent la foi, nous nous mettons à genoux, nous obéissons, nous sommes prêts à obéir immédiatement. Dans la mesure où ils détruisent notre foi, nous n'obéissons plus. Nous ne pouvons pas nous permettre de détruire notre foi. Nous avons la foi accrochée au cœur jusqu'à la mort. Voici ce que nous devons dire et ce que nous devons proclamer. Alors nous ne sommes pas des désobéissants. Nous sommes des gens qui obéissent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'Église a toujours demandé à ses fidèles. Voilà, l'esprit antilibéral, on obéit à Dieu et aux hommes qui nous transmettent ce qui vient de Dieu. Et si quelqu'un veut nous se servir de l'obéissance pour nous éloigner de Dieu, on dira non, c'est du béaba, c'est du catéchisme. Mais dans la circonstance où il a vécu, c'était très très compliqué, très difficile de percer toute la trame et de briser aussi cette trame. Parce qu'il y a des gens qui ont bien compris, mais n'ont pas réussi à trouver une issue. Comme aujourd'hui dans la fraternité, beaucoup voient clair, mais ne voient pas, ne passent pas en action, qui ne trouvent pas une solution pratique, une solution efficace. L'acte de prudence termine dans l'acte. Donc, il ne suffit pas de comprendre, il faut aller jusqu'à l'acte et poser l'acte qui va nous sauver. Je rappelle en 88, je crois que c'était 88, au monastère, on disait non, Monsieur Lefebvre devait rester en silence, le silence de Saint-Joseph, qui attend. Mais non, c'était une mauvaise explication. Non. Faut agir. Et si on est dans le doute, faut rien faire. Mais M. Lefebvre n'était pas dans le doute. Il voyait bien qu'il fallait agir et qu'il... Donc il y a des gens qui voyaient, mais n'ont pas pris les bonnes mesures. Le libéralisme, paradoxalement, conduit à la tyrannie. La condamnation de M. Lefebvre a été bien le fait d'une tyrannie libérale. Rien de plus sectaire qu'un libéral, disait Louis Veillot. Or, le sectaire est tyrannique quand il a le pouvoir en main. Il est insoumis et désobéissant quand il ne l'a pas. Monsieur Lefebvre était tout le contraire. Il n'avait rien d'un tyran dans le gouvernement. Il avait été très obéissant quand il a été un sujet. Tous ceux qui l'ont connu peuvent témoigner, c'est le fait qu'il y avait un gouvernement très paternel, rien de tyrannique, contraire de ce qu'on voit en ce moment. La tyrannie, c'est ce qu'a fait Paul VI et tous ses successeurs, une série d'actes tyranniques. On se fait, si on se renseigne bien, à lui aussi une conduite semblable. Les exemples ne manquent pas. Bon, bien sûr, tout n'a pas la même proportion, mais souvent c'est la même espèce. Le procès des abbés Pinault et Salanave sont la preuve. Il y a beaucoup d'autres qui fait qu'on dit non. Malheureusement, c'est une chose étonnante, du mal à croire ce qu'on est en train de voir. Et beaucoup de gens, je comprends très bien, des gens qui, une sœur m'a dit qu'elle a, avec une autre sœur, elle parlait ensemble, et l'autre a dit, mais c'est un monde qui vient à bas, je ne peux pas. Et elle était tellement bouleversée, cette sœur, qu'elle n'a réussi à prendre aucune décision. C'est tout un monde qui désabe. Et alors, les gens, même moi, j'avoue que on se demande comment c'est possible que qu'une chose si perverse rentre là où était la forteresse fondée pour Monsieur Lefebvre qui est mort il y a si peu de temps. Et c'est vraiment une chose. Quand j'étais au monastère il y a, je crois, 2009, Monsieur Galari était venu me voir. Je ne peux pas faire un lien avec ce qui est en train d'arriver, mais je raconte le fait. Il m'a beaucoup. On n'avait plus de vocation. Bon, le monastère n'est pas parfait. On a des défauts. Peut-être que c'était pour ça. C'est difficile à dire. Surtout pour moi, c'est difficile à dire. Mais le fait est qu'il est arrivé et il m'a dit, mon père, les confrères ne vous enverront aucune vocation tant que vous serez le prieur. Donc pour le bien du monastère, je vous conseille de quitter le monastère, partir. Et au Brésil en ce moment, il y a beaucoup de jeunes gens qui se convertissent, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses. Eh bien, si vous restez là, ces vocations, il y a certainement des vocations bénédictines parmi les jeunes, si vous restez là, c'est le monastère qui va souffrir. Donc je vous conseille de quitter. Eh bien, alors je dis, bon, c'est pour le bien du monastère. J'ai commencé par accepter. C'était pas une bonne chose, mais je commençais par accepter. Là, elle m'a dit, vous voulez partir dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois. Dans une semaine. Oh là là, j'ai dit, donnez-moi 30 jours. Donnez-moi un mois. Et après, j'ai écrit à l'abbé Bouchacourt, monsieur l'abbé, quelle est la raison? Il a dit, il ne savait pas. Il m'a dit, je pense que c'est votre santé, c'est vrai que ma santé n'est pas bonne, j'ai eu des fatigues qui ne sont pas très bonnes pour un supérieur, je prends des médicaments pour dormir, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est pas l'idéal, hein. C'est pas le supérieur idéal. Mais le monastère tourne. Les gens qui sont allés là-bas, le frère peut le témoigner, ça tourne. Quand ça tourne, c'est bon. Et matin, tous les offices sont dits, les frères, petite communauté, mais qui observent tant bien que mal la règle Saint-Benoît, Daniel Leroux est allé là-bas, il est retourné très content. Donc, le monastère marche quand même, malgré tout. Et après, il m'a dit, et aussi vos sorties. Vos sorties, alors j'ai dit, bon, la dernière sortie importante que j'ai faite, c'était aux États-Unis, à la demande de M. Ophelet. Parce qu'il me disait, il faut que vous reposiez, il faut que vous aidiez le père Cyprien. Et un jour, j'ai écrit à M. Ophelet, il m'écrit, il me répond en disant, je suis surpris que vous êtes encore à Santa Cruz, je pensais que vous étiez déjà aux États-Unis, etc., etc. Bon, je suis parti aux États-Unis. C'est vrai que ce n'était pas le seul voyage que j'avais fait long. Mais c'était sous conseil en partie de M. Ophelet. Donc j'ai dit à l'abbé Bouchacourt, c'est pas très bien ça. Si on me conseille de m'absenter et après on dit que je m'absente, bon, moi je vais rester. Là j'ai écrit à M. Galarit, je suis très, très gêné de vous dire, mais je ne vais pas faire ce que j'ai dit. Je suis resté. Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe maintenant? C'est possible. Possible parce que quand M. Ophelet a fait une réunion avec les religieux, je crois que c'était à Flavigny, je ne pouvais pas venir. Donc, j'ai écrit une lettre à Monseigneur. Il disait, qu'il allait demander deux préalables à Rome. Donc il a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé donc la suspension des communions. Il allait demander aussi la libération de la messe. Alors j'ai répondu que je ne pouvais pas y aller, mais que le père Ange pourrait me représenter. Et comme il avait envoyé la lettre, je pensais qu'il voulait savoir mon avis. Ce n'avait rien d'extraordinaire. La réponse était toute simple, rien d'extraordinaire, mais après c'est passé quelque chose d'intéressant. Donc j'ai répondu, je dis, mon Seigneur, je pense qu'il faut faire attention de ne pas demander la libération d'une messe qui n'a jamais été prohibée, ni le retrait des excommunications qui n'ont jamais existé. Alors le Père Innocent-Marie m'a écrit, je lui ai envoyé une copie, il dit, votre lettre est très gentille, mais sachez que maintenant vous êtes sous le collimateur, hein, comme ce qu'on dit, de Monsieur Fellet, hein, parce que la réunion a eu lieu à Flavigny, était un peu difficile. Monsieur Fellet a commencé en disant, interdiction d'enregistrer rien du tout. Il ne pouvait pas enregistrer. Et la tension était grande déjà à ce moment-là. Et je pense que c'était... Je ne sais pas, je pense que c'était avant la chute de Campos. Je me trompe. Pour dire que, voilà, ce sont des choses qu'on ne s'imaginait pas, mais qui sont là. Bon, le cas... Le procès de l'abbé Pino de Bessalanave est beaucoup plus criant, parce que c'est évident, c'est d'évidence de plus en plus grande. Et maintenant, on a des exemples un peu partout dans le monde, de ce qui se passe dans les écoles, dans les paroisses, des gens qui sont petites filles de 4 ans, on m'a dit, dans le cours de pèlerinage, qui avaient fait première communion dans la résistance, et après est allé dans une chapelle de fraternité, le prêtre l'a refusé la communion. Petite fille de 4-5 ans qui était en pleurant à la table de communion et le prêtre ne l'a pas donné. Et donc des actes qu'on n'aurait jamais cru que cela pouvait arriver dans la fraternité. Bon, le remède au libéralisme, c'est la vérité, l'objectivité, c'est la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le libéralisme prend sa distance de tout et fait à sa guise. Eh bien, le anti-libéral, au contraire, il se soumet. Se soumet à Dieu, se soumet à la réalité. Quand on allait demander quelque chose à Monsieur Lefebvre, très très souvent, les fois que j'ai demandé qu'il avait signé une hésitation, il prenait le droit canon. Regardons ce que dit le droit canon. Donc, objectif. C'est la loi de notre Seigneur, non pas n'importe quelle loi, mais la loi de la foi, la loi de notre Seigneur. La loi naturelle aussi, parce que cette loi naturelle appartient elle aussi à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est auteur de la nature aussi bien que de la grâce, dans cette soumission à ceux qui ne viennent pas de nous. Gustave Corson disait, il avait perdu la foi à 15 ans, il l'a retrouvée à 38 ans. Et il disait, mon salut, j'ai compris que le salut ne pouvait venir que de dehors. J'ai compris que le salut ne pouvait venir que de dehors. Pas de moi, mais de dehors. Et alors, il a commencé sa conversion. C'est très intéressant. C'est le contraire du libéralisme, contraire du modernisme, contraire du subjectivisme. On reçoit du dehors. Je vais ajouter une chose à... c'est un détail, une parenthèse. Mais comme cette histoire de ma santé avait, évidemment, ça donne lieu à beaucoup de commentaires, etc. Alors j'ai cherché à savoir des gens qui avaient eu la même maladie que moi. J'ai trouvé, certains j'ai trouvé écrits, d'autres j'ai entendu. Dans la liste, il y a Dom Armion, Dom Vital Léodé, un grand général allemand, comment il s'appelle, celui qui a fait Afrika Korps.
Rommel.
Oh, j'ai bon, ça va. C'est pas un Christéro, mais quand même. Bon. Et c'est pourquoi Monsieur Lefebvre disait, nous sommes avec 2000 ans d'église et non avec 12 ans de nouvelle église. Une église conciliaire, comme on nous l'a dit. Lorsque Monseigneur Benelli nous a demandé de nous soumettre à l'église conciliaire, je ne connais pas cette église conciliaire. Je ne connais que l'église catholique. Le style Monsieur Lefebvre, de temps en temps, est... je ne connais pas cette église conciliaire. Je ne connais que l'église catholique. Alors nous devons nous maintenir fermes sur nos positions. Pour notre foi, nous devons tout accepter. Toutes les avancées que l'on nous méprise, que l'on nous excommunie, que l'on nous frappe, que l'on nous persécute, demain peut-être les pouvoirs civils nous persécuteront. Ce n'est pas exclu. Pourquoi ? Parce que ceux qui détruisent l'Église actuellement font l'œuvre de la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui commande partout. Sermon du 22 août 1976. À Écône, si je me trompe. Excusez-moi ces citations un peu longues, mais qui sont très belles. C'est la foi catholique intrépide de notre grand évêque, gloire de la France, gloire de l'Église. Il a non seulement compris ce que c'était le libéralisme, mais l'a affronté victorieusement. Et c'est pourquoi nous n'avons pas le droit de rendre les armes à l'ennemi. Nous n'avons pas le droit de permettre qu'on détruise ce qu'il a défendu avec tant de générosité, avec tant de foi, tant de larmes, tant d'efforts. Cette Rome conciliaire n'a pas le droit à notre obéissance. On parle d'un accord unilatéral. Mais combien on dit la même chose. Donc je disais, je ne sais pas, à l'époque je pensais qu'il mentait. Après, avec les années, peut-être il ne mentait pas. Et peut-être c'est Rome beaucoup plus maligne qu'on s'imagine. Parce qu'il disait, Rome donne tout et ne demande rien. Comment pourrions-nous le refuser? C'est évident que Don Gérard, en faisant un accord avec Rome, allait être obligé d'accepter la communication de Monsieur Lefebvre. Mais lui disait que non. Il disait qu'il allait à Rome pour défendre Monsieur Lefebvre. Donc je ne sais pas exactement ce qui a été conclu entre lui et Rome. Mais peut-être, il est dans son illusion, et Rome, sachant très bien qu'elle pouvait dire ça, que Don Gérard allait nécessairement se ranger, parce que la force des choses conduit à cela. On se le fait dire, Don Gérard pense qu'il va faire ce qu'il veut à Rome. À Rome, on ne fait pas ce qu'on veut. À Rome, on fait ce que Rome veut. Et quelques années plus tard, il est allé voir Jean-Paul II. Il se vantait d'être un des seuls prêtres, peu de prêtres qui avaient traversé toute la période conciliaire, donc qui avait été ordonné avant le concile, et qui n'avait jamais dit la messe nouvelle. Donc il disait, il remarquait cela. C'est intéressant, c'est tout à son honneur. Eh bien, il va voir Jean-Paul II. Donc il a l'accord, dit qu'il peut garder tout, ce combat antimoderniste, la messe en Saint-Pie-V, qu'il allait tout garder. Il arrive pour voir Jean-Paul II, il est dans la salle, ça c'est Père Bruno qui pourrait nous raconter en détail, parce que j'étais évidemment au Brésil, mais des moines nous ont raconté, plusieurs personnes nous ont raconté, bon, je ne sais pas exactement, mais le Père Bruno certainement était là. Alors, le secrétaire du pape vient, il lui dit, le pape vous verra demain, après la messe, sa messe privée, qu'il va concélébrer avec vous. Il n'a pas eu le courage de dire, dites au Saint-Père que cette messe, je ne le dis pas, qu'il la dise tout seul. Il n'a pas eu courage, parce que faut un courage hors du commun pour dire ça. Donc Rome sait très bien que unilatéral, ça suffit. Hein. L'autre côté viendra peu à peu. Et Campus parlait aussi de reconnaissance de la part de Rome. Rome reconnaîtrait la tradition. C'est absolument faux. Les faits sont là. Mais les gens de Campos, qui sont des gens simples, qui plusieurs ne sont jamais sortis de la région, surtout les paysans qui ne sont jamais sortis de là. Normalement, les paysans ne sortent pas beaucoup de leur maison parce qu'il y a le bétail, les travaux des champs qui les obligent à rester sur place. Et c'est un peu leur force aussi. Eh bien, ils ont cru. Comment on pouvait ne pas croire? Tous les prêtres Campos ont accepté l'accord. Et après, ils ont vu que ce n'était pas ça. Et le drame. Donc, là aussi, on parlait d'un accord unilatéral. Et le plus étonnant, c'est que les prêtres Campos, certains au moins, ont cru aussi. Et alors, ils ont fait un document qu'ils allaient publier dans un journal, disant qu'ils étaient contre tout ce qu'on est contre. Et alors, ils ont montré, ça c'était déjà un peu plus tard, l'année même des accords, mais après, je pense après la mort de Monsieur Lessine. À vrai dire, je ne sais pas exactement la date, mais peut-être que Lessine était vivant encore. Mais le fait que, c'est un prêtre Campos qui m'a raconté, ils ont montré ça à l'abbé Riffin, au Monsieur Riffin, ces détails, je ne sais pas. Il a regardé, il a dit, ouf, quand même, amoindrir, arrondir les angles ici, il faut atténuer un petit peu, mais ça restait très ferme. Ils ont montré au cardinal Castrillon Royos. Le cardinal a lu, il a dit, oui, c'est ça que nous avons convenu, mais c'est pas la peine de publier ça dans le journal. Oubliez seulement que vous allez faire des critiques constructives conforme le canon numéro tel, un tel. Et le prêtre m'a raconté, a dit, notre combat s'est arrêté là. Plus jamais on a eu le courage de dire quelque chose, parce qu'on savait qu'on allait contrister le Saint-Père et contrister le pauvre cardinal, le gentil cardinal Royos. Ils n'ont plus jamais rien fait. Donc, unilatéral, ça marche aussi bien que bilatéral. C'est toujours le même langage. On se le fait ne parler pas comme ça. Même quand Monseigneur acceptait de traiter avec Rome, il ne se faisait aucune illusion. Daniel Leroux m'a fait. Il est en train de mettre par écrit certaines choses intéressantes parce qu'il était. À Icône, il était séminariste au moment des sacres. Il a écrit aussi son livre « Pierre m'aimes-tu ?» et Monseigneur Lefebvre donc, le voyait très souvent. Donc même quand Monseigneur Lefebvre a pensé à avoir un évêque, il disait « Mais dans quelques semaines, ce sera tout fini de nouveau. Les bons rapports avec Rome ne vont pas durer plus que quelques semaines. » Monsieur Lefebvre n'avait aucune illusion. Monsieur Follet a dit aux trois évêques qui lui ont écrit en 2012 qu'il manquait d'esprit surnaturel et de réalisme. Monsieur Follet a dit que l'état actuel de la fraternité était le meilleur, le plus commode, mais que Benoît XVI ne l'acceptait plus. Même si ce n'est pas le mot à mot, parce que je n'ai pas eu le temps de voir, ça y est, je peux chercher, ça y est. Donc ça montre que déjà, Rome n'a même pas fait un accord, et Monsieur Follet dit aux évêques, Benoît XVI n'accepte pas. Déjà, même pas besoin d'un accord. Monsieur Lefebvre n'a jamais parlé de cette manière. La fraternité dit qu'elle sera acceptée telle qu'elle est dans la tête de Monsieur Follet ou dans la tête de Monsieur Lefebvre. Être acceptée telle qu'elle était, c'est la réhabilitation de Monsieur Lefebvre et de Monsieur Kassoumayer. En Rome n'est pas prête du tout à agir dans ce sens. Le canal Ré a dit à Monsieur Riffin qu'il fallait laisser le cas de Monsieur de Kassoumayer à la miséricorde de Dieu. Parce qu'il dit qu'il est allé là-bas pour essayer de réhabiliter Monsieur Kassemeyer et qu'on aurait dit non, non, il est déjà mort, on ne fera rien, laissez sans la miséricorde de Dieu. Et Rifan peut-être était très était content de cette réponse, parce que ça l'arrange. Parce que pour lui, Monsieur Kassemeyer s'est trompé. Et aujourd'hui, à Campos, les fidèles, la plupart au moins, disent non, non, le grand homme, c'est Monsieur Rifan. Monsieur Kassemeyer s'est trompé. Donc, Rome, tout ça, c'est évident. Pas besoin d'insister. Et peut-être Monsieur Fellet commence à penser la même chose avec Monsieur Lefebvre. Bon, un peu tôt pour le dire, mais il prend le chemin. À mon avis, ça va venir. Parce que tellement contrastant hein, les positions, la manière d'agir de Monsieur Lefebvre et de Monsieur Fellet, qui vont finir par... je ne sais pas où ça va finir. Rome n'acceptera pas ni la fraternité telle que Monsieur Lefebvre l'a voulu, ni la tradition telle qu'elle est, parce que le pape François est la continuation de ce qu'a fait Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais disons encore un mot sur Monsieur Lefebvre, les événements qui ont précédé et suivi de près le sacre et qui ont permis à Monsieur Lefebvre de donner toute sa mesure d'évêque catholique tout entier livré aux intérêts de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Je vous livre ici mon impression fondée sur beaucoup de faits qui seraient trop longs d'exposer et qui d'ailleurs sont connus pour la plupart. Je pense que M. Lefebvre était un peu comme Moïse, qui avait un peuple difficile à conduire. Si le peuple juif est resté 40 ans dans le désert, ce n'est pas la faute de Moïse. Mais Moïse est resté avec son peuple. Si l'entrée dans la terre promise n'avait eu dépendu que de Moïse, cela aurait été fait bien, bien plus tôt. Or, si Monsieur Lefebvre avait été mieux compris, il aurait été bien plus soutenu en 88 et peut-être le sac aurait été plus tôt, en 87. Il a annoncé en 87 au sermon d'ordination à Icône, juin, et tout de suite après, Ratzinger, il n'avait demandé rien à personne. On dit que le sacre de Montsoufort et le sacre de cette année, on aurait dû demander à Rome. Monsieur Lefebvre n'a rien demandé. Il a annoncé en 87, alors Rome lui a téléphoné. C'est Daniel Leroux qui le dit. Il était là, je crois qu'on peut lui faire confiance, il est très précis. Et Rome donc lui téléphone, et alors dit Daniel Leroux aussi que c'est un peu sous l'insistance de l'abbé Schoenberger qu'il a accepté de... Donc je pense que M. Lefebvre a fait certaines choses pour avoir son troupeau avec lui. On dit que dans la guerre de Vendée, il y a des chefs qui étaient tellement décidés et résolus et courageux. Et quelquefois, ils sont partis dans l'ennemi, ils sont trouvés bien au-delà de la troupe, tout seuls là-dedans. Qu'est-ce que vous faites ici? Et donc, Monsieur Lefebvre a eu, à certains moments, il a ralenti la marche pour avoir l'ensemble de la troupe. Je vais vous lire quelques lignes écrites par Daniel Leroux. Et puis vint l'annonce fracassante des sacres lors du sermon des ordinations sacerdotales en juin 87. Il est utile de noter que Monseigneur n'a pas prévenu les autorités de l'époque de son intention. Il est clair qu'il n'envisageait ni dialogue ni discussion avec Rome. D'ailleurs, il voulait procéder au sacre en septembre 87, quelques semaines après l'annonce, sachant bien que durant l'été, rien d'important ne se décide à Rome. C'est le cardinal Ratzinger qui appela Monseigneur pour tenter de le convaincre, de changer d'avis et d'entamer des discussions. Monseigneur ne le souhaitait pas. Il s'est résolu sur les demandes instantes du supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X à l'époque. Monseigneur accepta la venue d'un cardinal visiteur, c'était le cardinal Gagnon, mais il refusa que ce soit le cardinal Audi. Il craignait que ce cardinal, avec ses manières affables, sympathise de manière trop cordiale avec les séminaristes et les rallie à sa cause. Voilà des précautions que M. Lefebvre prenait et qui aujourd'hui, parce qu'on... Les nouvelles qu'on reçoit, on ne prend pas ces précautions. M. Lefebvre, après, il a dit même, les communications nous protègent. Ces contacts sont dangereux, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut être au Mont sur les Fèves pour pouvoir aller à Rome et retourner indemne. Rome, finalement, envoya le cardinal Gagnon. Monseigneur craignait une contamination de la part des autorités romaines. Il voulait nous protéger. Durant la visite au cardinal Gagnon à Écône, l'attitude de Monseigneur Lefebvre fut courtoise, mais sans plus. Toujours très digne, il était en permanence réservé en maintenant une certaine distance. Voilà, réserve qui n'a pas été imitée par tous. Ses contacts avec Rome sont extrêmement délicats. Il ne faut pas les exclure par principe, ni surtout les faire dans une ambiance trop cordiale. Et bon, le mieux c'est... Bon, pour moi, j'espère ne pas y aller, parce que je ne suis pas Monseigneur Lefebvre. Et... Bon... La grâce de Dieu. Mais je pense que... c'est pas pour n'importe qui, ce genre de choses. C'est très... C'est trop important, trop délicat. Ils sont trop expérimentés. Jusqu'aujourd'hui, seulement sur les faibles, que je sache, a pu y aller sans perte pour la tradition. Et encore, puisqu'il a dû retirer sa signature du protocole du 5 mai, en 88, en faisant marche arrière, après une nuit blanche. Après sont venus les sacres. À lui, le Romain par excellence, écrit encore Daniel Leroux. À lui, l'évêque obéissant, sans jamais murmurer, obéissant au magistère de la Rome éternelle, notre Seigneur a demandé le sacrifice héroïque des sacrés sans accord de Rome. C'est peut-être ce moment de détachement ultime, au début du mois de mai 88, qu'il est devenu un saint hors du commun, car à personne d'autre avant lui, dans toute l'histoire de l'Église, un tel sacrifice n'avait été demandé. Et de ce sacrifice ultime dépendait la continuation de la Sainte Église romaine. Ce sacrifice ultime, ce fiat, il l'a offert et prononcé pour nous, pour les générations qui viendront après nous. Son départ pour l'éternité, un 25 mars, le jour de fiat, n'est-il pas la réponse du ciel à son fiat de 88, à ce détachement ultime, à cet abandon total dans les mains de la Providence, la divine Providence? Bon, nous pouvons dire que toute sa vie, Monseigneur Lefebvre, surtout dans ses dernières années, a illustré les paroles du cardinal Pie que nous avons citées au début de cette conférence. Il est l'homme qui s'est attaqué au problème du moment. Et c'est là qu'il a reçu des grâces exceptionnelles, de sagesse, d'intelligence, pour mieux comprendre le mystère de l'Église, le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, comprendre l'envers du libéralisme, cette soumission à Dieu. Ce sont les erreurs du temps où nous vivons qui doivent retenir notre attention. Bon, pas uniquement eux, mais spécialement eux, parce que pour la raison donnée par le cardinal Pie. Et c'est la vérité qu'on doit leur opposer, qui doit être l'objet de l'enseignement et de l'action de ceux qui guident les âmes. Monseigneur Lefebvre, ses propos a parfaitement rempli son rôle. Il a prêché le Christ au roi, il a combattu le libéralisme sous toutes ses formes. Il a apporté les solutions à la fois doctrinales et pratiques. Il ne vivait que pour cela. Il parlait très très souvent de cela. Pratiquement, toutes les fois que je suis allé le voir dans son bureau, il m'a parlé de la crise de l'Église. Et ça, c'était son C'était la mission que mon Dieu lui a donnée en tant qu'évêque, de trouver les solutions qui s'imposent et qui étaient nécessaires de trouver pour le temps que nous vivons, pour le bien des fidèles, pour le bien des familles, pour le bien de tout le monde. Il ne vivait que pour cela, pour ainsi dire. Il vivait pour Dieu, mais à travers cela. Le règne de notre Seigneur sur les âmes et sur la société. La soumission de toutes choses à notre Seigneur Jésus-Christ. À ce cri de révolte libéraux, il a opposé le fiat de Notre-Dame ainsi que le « qui comme Dieu » de Saint-Michel, que nous pouvons traduire « qui comme notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc le titre de cette conférence était « Le combat de Mons. Lefebvre continue ». C'est donc ce que nous voulons faire. Nous voulons faire comme lui, que bon Dieu nous fait la grâce, comme lui, suivre ses traces. Nous voulons combattre le libéralisme, comme il a fait, cherchant dans l'étude de documents pontificaux les lumières nécessaires pour ce combat. Depuis 6 à Pie XII, ou mieux, dans tout le magistère de l'Église de toujours, pour y puiser la doctrine de notre Seigneur et la faire passer dans les âmes. Garder le dépôt de la foi, transmettre le dépôt de la foi et donner les sacrements, disait Mons. Lefebvre aux 4 évêques avant leur sacre. Et votre mission est de garder, de transmettre le dépôt de la foi et donner les sacrements. Maintenant, nous sommes 3 évêques dans la résistance. Un séminaire est déjà fondé, pour lequel on demande votre concours, vos prières, votre aide, parce que c'est l'espoir. L'espoir, c'est... Monsieur Wilson se demande s'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer cette formation. Au Brésil, on a proposé de faire une maison d'études. Parce qu'il dit il faut faire une année ou 2 années ce qu'autrefois on faisait en 15 années. Dans les écoles modernes, on n'apprend presque rien. Quand j'avais déjà un peu décidé de venir en France, mes parents voulaient que je rentre à l'université, c'est pour ça que je suis rentré, faire une année de droit, une année et demie. Alors j'ai demandé à Corsan, qu'ils ont pensé que je rentre à l'université. Il m'a dit, perte de temps et d'argent. Corsan était fou. Les jeunes gens perdent leur temps dans les écoles modernes, et donc il dit, bon, faites une maison d'études pour enseigner la grammaire, enseigner les choses élémentaires, avant qu'ils viennent dans le séminaire ou qu'on commence un séminaire. Bon, donc voilà. Le séminariste reçoit donc dans le séminaire la formation que M. Lefebvre a toujours voulu, c'est-à-dire la formation thomiste, grâce aux dominicains, qui sont en état de pouvoir la donner. Et cette formation thomiste, demandée par Saint-Pédis, inscrite dans le droit de l'Église, le code de droit canon, donc c'est la volonté de Dieu, c'est pas... Et avec cela, ils reçoivent une formation antilibérale, telle qu'elle vient d'être exposée en quelques mots, qui se résume dans ce fiat de Notre-Dame et dans le mot de Saint-Michel. Monsieur Lefebvre transpire cet antilibéralisme. Donc soumission à Dieu et combat contre l'insoumission de Lucifer, de Satan, qui selon le mot de Gustave Corsan, il disait que le démon voulait clôturer l'histoire du monde de la même manière qu'il avait fait avec nos premiers parents. Donc il disait, pour faire pendant à le péché originel, le démon allait essayer de faire un péché terminal, de la manière que l'histoire du monde termine aussi par la révolte, par le péché. Eh bien, il y a un homme qui s'est opposé à cela, qui a... pas le seul, mais c'est le plus important, c'est M. Lefebvre. Et grâce à lui, nous sommes ici. grâce à lui, la tradition continue. Et grâce à lui, bon, nous savons aussi qu'est-ce que nous devons faire. Voilà, mon texte est fini. S'il y a des questions, je peux répondre. Et voilà, c'est ce que nous espérons faire et comptons sur vos prières. Elle est tellement petite, notre communauté. Nous sommes 11 moines, 11 petits moines qui sont là avec un chien et avec un garçon qui peut-être va venir ici. Il faut que je demande au père de son mari. Son père l'a confié. Donc, il est là, il a 13 ans. Il a deux garçons qui sont en train de se préparer pour le séminaire. David et Daniel, la vie bénédictine, on a toujours ouvert, on a la porte ouverte pour les autres. La vie bénédictine, donc il y a toujours des autres, et c'est la vie bénédictine. Surtout l'office divin occupe le meilleur de notre temps, encore que on essaie de chanter la messe tous les jours, mais on n'arrive pas, parce que... Mais c'est la vie bénédictine, pour qui la connaît, ces matines, c'est à peu près la même vie que des dominicains, mais avec moins de temps d'études, moins de cours, un peu de travail manuel pour la mesure qu'on peut. Et quand nous avons envoyé des moines pour fonder Belleg, la communauté était entre 15 et 20, je ne me souviens pas exactement du nombre, mais nous avons déjà dépassé 20. Depuis ce temps-là, nous n'avons plus jamais atteint un grand nombre. Un peu parce que, il y a un certain temps où, de fait, le prêtre au Brésil barrait les vocations et envoyait à d'autres endroits. Des jeunes gens au téléphone m'a dit « Je suis en train de partir à un tel endroit. » C'est parce qu'on m'a dit de faire ça et s'excuser au téléphone. Donc, cela nous a réduit un peu les entrées. Ils n'avons jamais récupéré un nombre plus grand que 11, 12. Mais maintenant, il y a un intérêt renouvelé pour la tradition, un peu partout, et au Brésil, l'intérêt pour la tradition augmente en ce moment. Il y a des Brésiliens qui s'intéressent soit à nous, soit à venir ici en avril, et commence à voir, c'est intéressant. Il y a des gens qui n'ont pas connu la fraternité, qui veulent déjà venir à avril, ou alors venir chez nous, et c'est intéressant. Donc, comme notre fondateur, le Père Mioir, avait prévu aussi qu'on prêche des missions, c'est ça que j'avais dit aussi à l'abbé Bouchacourt, c'est l'abbé, je sors, mais je sors aussi parce que notre congrégation bénédictine, elle est un peu différente de la congrégation de France. Après la Révolution française, il y a deux bénédictins, deux prêtres qui ont restauré la vie bénédictine en France. Un, c'est donc Guéringer, une vie plus contemplative. Et l'autre, c'est le Père Mioir, qui a fondé la Père Kévir, et où il avait un peu de mission. Donc, je sortais. Je pense que ça l'a gêné un peu la fraternité. Parce qu'on sortait, on allait dans des endroits, et comme les différences commençaient à se sentir, petit à petit. Donc je pense, je ne peux pas affirmer parce que ce sont des choses trop importantes, trop délicates pour qu'on. Mais je pense que ça gênait. Et alors, donc on sort un peu. On va à Vitória. Vitória fait 400 km à peu près du monastère. Il y a un petit groupe très intéressant, très bon. Une chapelle très, 50 de personnes très ferventes. Nous allons un peu plus haut aussi, dans l'état de Bahia, où il y a Teixeira de Freitas, il y a aussi un bon groupe. Il y a dans Minas Gerais, il y a plusieurs endroits. Là dans le sud, il y a plusieurs villes dans le sud, où il y a un petit groupe. Dans l'état de Paraná, dans l'état de São Paulo, l'état de Santa Catarina. Então, mais nous sommes trop petits pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc on y va de temps en temps, quelquefois une fois par an, deux fois par an. À Vitória, on va plus souvent. Mais voilà notre vie. Donc nous sommes deux prêtres. Et les autres sont des frères, mais qui chantent bien. Deux chantent très bien, trois chantent très bien. Nous avons deux novices. Trois novices. Et une petite communauté. Et les novices, bon, les plus âgés, donc moi je suis le plus âgé de la maison. Après vient donc le frère Placide qui a 50 ans, un peu plus de 50. Il y a d'autres qui sont autour de 50 et les novices sont tout jeunes, 18 ans, 20 ans. Et nous avons une petite école aussi. Petite école, petite aussi, une dizaine d'élèves seulement. Il y a des familles qui sont venues habiter près du monastère. Parmi ces familles, il y a quelques familles très très bonnes. Une particulièrement qui est très très bonne. Et il y a des enfants qui veulent, disent qu'ils veulent être moines. Bon, on va voir. Oui.
Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire que vous avez racontée dimanche au sermon du paysan de Campos?
Oui, c'est très intéressant. Donc, dans la région de Campos, au début, ils avaient accepté, ils m'ont dit, nous étions radiants, nous étions heureux comme tout, quand il y a eu les accords. Parce qu'on disait, Rome reconnaît la tradition. Pour eux, c'était la fin de la crise. Ils croyaient totalement. Et avec le temps, ils ont commencé à voir que ça ne marchait pas. Il y avait des changements. Changement dans les conseils, changement au confessionnal, le conseil qu'on donnait au confessionnal, dont Riffin, très arrogant, il arrivait, je suis en haut, vous êtes en bas. Ici, c'est moi qui commande, si je suis l'évêque, si je suis le pape. Et après la messe, le baisement. Alors, ça c'est y est. N'a rien de mal, mais M. Casemar ne faisait pas ça. Alors les paysans faisaient la queue, tout baisait l'anneau de Riffin. Bon, je commençais à sentir un peu. Bon, d'accord. Après, un prêtre a dit non, il faut être obéissant. Vous voyez cette soutane, est-ce bien? Si le pape dit qu'elle est blanche, il faut dire qu'elle est blanche. Le paysan, il perd la tête. Qu'est-ce qu'il a? Alors, les paysans continuent. C'est quelque chose qui. Moi, c'est tout bizarre. Bon. Alors, ils ont demandé si on pouvait faire le lien entre eux et la fraternité, pour que la fraternité aille là-bas. Alors, au début, donc, on a fait le lien. Au début, la fraternité ne pouvait pas y aller. Donc, nous allions deux dimanches par mois. La fraternité allait un dimanche. Et après, nous avons cédé la place à la fraternité. Mais le temps a passé et on a commencé à écouter dans l'air l'histoire, le mot accord. Alors les paysans, de nouveau, fouf. Alors et alors l'abbé qui était chargé explique là dans le sermon, etc. Et le paysan commence à dire, mais il parle comme Riffin. Mais c'est comme Riffin, ça. C'est Riffin. Riffin de nouveau, de retour. Alors il a écouté ça. Il est arrivé à ses oreilles. Il n'était pas content, le prêtre. Pas content, parce que Riffin, c'est une calamité. Tout le monde le sait. Alors il a appelé un paysan, appelé Gabriel, père de famille, très intéressant. Il a dit, mes filles n'iront pas à la ville étudier. Mes filles savent déjà lire et écrire, ça suffit. Elles vivront ici, elles se marieront ici, et elles n'iront pas à la ville. Elles auront d'ici au ciel, j'espère, mais passer par la ville. Alors Gabriel est très intéressant. Alors le prêtre appelait ce paysan. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? On dit que je parle comme Riffin. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il a dit, monsieur l'abbé, je ne sais pas quelles sont vos intentions, mais que vos paroles sont les mêmes qu'il disait, oui, sont les mêmes. Et le prêtre est parti. Donc les paysans voient, mais le danger c'est qu'ils ont quand même la gratitude. Ce prêtre est là, c'est lui qui fait les enterrements, celui qui fait les baptêmes, celui qui fait... Et pour les nouvelles générations, et alors M. Galari était là-bas, tous les évêques sont passés là-bas, Fluger est passé là-bas, Bouchakour est passé là-bas, tout le monde est passé. Alors, en ce moment, les contacts avec nous sont... On attend un appel au secours, deuxième appel au secours. Pour l'instant, on n'a pas de contact en ce moment. Mais ils nous connaissent bien. Qu'est-ce qu'ils pensent de... Bon, voilà. Il faut attendre.
Ici, vous avez une communauté de 11 petits moines, dont deux prêtres.
Oui.
Comment vous vous organisez sur le plan des études? Parce qu'il faut un corps professoral pour préparer les prêtres. Il y a toutes les matières de théologie, de philosophie, du droit canon, etc., d'histoire d'église.
Eh bien.
Comment deux prêtres peuvent-ils assumer la formation de futurs prêtres?
Notre formation est insuffisante, il n'y a pas de doute. Mais elle se fait. Le prêtre qui a été ordonné, elle étudie un peu à l'arrière, parce qu'il a fait ses premières études à l'arrière. Eh bien, nous pensons au séminaire que c'est en train de faire ici. Qu'en ce moment, en se préparant pour la prêtrise, il n'y a personne chez les moines. Il y a seulement deux garçons qui peut-être viendront ici, mais ces deux garçons ne sont pas moines, deux garçons qui sont pour le prêtre séculier. Et donc, pour le monastère, c'est vrai, on n'a pas les moyens de donner une vraie formation sacerdotale. C'est partie du drame de la crise actuelle. On voudrait bien... Les moines... Bon, voilà. On étudie quand même, on fait ce qu'on peut, mais... En ce moment, on n'a personne qui soit en train d'être préparé pour le sacerdoce. En ce moment, ce n'est pas notre problème principal. Plus tard, oui, il faudra trouver une solution. Soit les envoyer ici en France, soit appeler les Dominicains au Brésil. Carl Noguet, il a étudié aussi dans le collège San Bento. Ce collège San Bento était touché par le mouvement liturgique. Et Courson avait été oblat de ce monastère. Mais ce monastère avait une dévotion, une vénération pour Maritain, comme beaucoup, beaucoup d'autres. Et alors, quand Courson a écrit le siècle de l'enfer, qui en portugais s'appelle le siècle du néant, les moines de San Bento ont rompu complètement. J'avais demandé au directeur de l'école s'il avait lu le livre. Il a dit non, j'ai arrêté. On ne peut pas dire ces choses-là de Maritain. On ne touche pas à Maritain. Bon. Alors, ce monastère a commencé à virer à gauche, vraiment à gauche. Et de Carlos Noguet, à virer avec le monastère, avec l'école du monastère. Donc il a aidé à fonder le parti, il me permet de dire ça, hein, parce qu'il a dit, tout le monde le sait, le parti dont la présidente vient d'être, on va peut-être la mettre dehors. Il est du parti que Carl Noguet a aidé à fonder. Alors Carl Noguet, après, s'est converti. Donc il était à gauche, poussé un peu par les moines de San Bento. Mais après, il s'est rendu compte, il a été touché par la grâce, il a quitté ce parti, qui est un parti pratiquement communiste, n'importe pas ce nom, mais la méthode et la pensée, c'est la pensée communiste. Il s'est converti, il a toujours eu de la facilité pour écrire. Donc il était traducteur, professeur de grammaire aussi, il a édité une grammaire. Et en se convertissant, il a commencé à étudier Saint Thomas. Il a beaucoup lu les quelques contacts avec l'abbé Calderon. Et un peu autodidacte, mais pour quelqu'un qui était un peu seul, il a fait un très bon travail. Il est en contact, avait un contact assez, un petit contact avec le padre l'abbé Calderon. À ce moment, ce contact ne peut plus se faire, mais donc il enseigne le portugais, la grammaire aux élèves qui se préparent au sacerdoce au monastère. Il a un cours aussi de philosophie. Il essaye de suivre très fidèlement la philosophie de Saint Thomas, mais un peu autodidacte, mais bien docile. Il essaye de... Calderon a fait un livre d'introduction à la philosophie qui est très bien fait. Son cours, c'est exactement le cours de Calderon. Donc voilà, il habite dans la même ville que nous. Son fils est à notre école. Il donne aussi des cours à l'école. Alors il fait la dictée tous les jours. Et quand son enfant fait une erreur, il dit... Pauline, on peut pas faire des erreurs. Mais papa, on peut pas faire des erreurs. Le petit. Et alors il oui, c'est un bon soutien pour nous, professeur et à l'école les enfants l'aiment bien, l'exigeant, mais les enfants apprennent bien parce que il les fait travailler. Il donne aussi des cours aux professeurs. Parce que les professeurs aussi ont besoin d'apprendre la grammaire. Parce que au Brésil, tout le monde a besoin d'apprendre la grammaire. Je ne sais pas si en France c'est la même chose. Mais au Brésil, tout le monde est en retard sur des choses élémentaires. C'est partie de la décadence actuelle. Voilà.